Bonsoir. La RDC est classée 147e sur 167 pays par le rapport de Transparency International sur la perception de la corruption en 2015, rapport publié la semaine dernière à Kinshasa. Une position qui n'a pas changé par rapport à l'année 2014, je voulais dire. Entre-temps, le conseil spécial du chef de l'État pour la lutte contre la corruption affirme qu'on n'est pas disposé des moyens pour lutter contre ce fléau en RDC. Quel est le faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 1er février 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Ernest Ompararo, président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, Ligue Coco en sigle. Il est aussi contact national de l'ONG Transparency International en RDC. Monsieur Pararo, bonjour, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean Bosco Condé, conseiller spécial du professeur Luzolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Excusez-moi. Monsieur Condé, bonsoir.
Oui, bonsoir. J'ai rectifié un peu, conseiller principal.
Merci.
Du professeur Luzolo.
Merci. Et le professeur Emmanuel Banyue-Sizé, qui est en ligne, professeur à l'Université de Lubumbashi et directeur général de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique. Professeur Banyue-Sizé, bonsoir.
Bonsoir et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
La corruption se porte bien en RDC. D'après le rapport de l'organisation Transparency International rendu public mercredi 27 janvier dernier, le Congo Kinshasa avec 22 points occupe la 147e place sur 168 pays, une position qui n'a pas changé par rapport à l'année 2014. Ce rapport, rappelons-le, porte sur la perception de la corruption dans le secteur public. Selon Transparency International, ce classement des pays qui est enregistré soit les plus fortes baisses ou les plus fortes hausses de corruption tient compte de plusieurs caractéristiques. Les détails avec vous, Chakif Molima.
Parmi les caractéristiques qui permettent les fortes baisses de corruption figurent notamment le niveau élevé de liberté de la presse, l'accès aux informations budgétaires pour une meilleure transparence et un système judiciaire impartial. Quant aux fortes hausses de corruption, elles se font remarquer par une mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions telles que la police et le système judiciaire et un manque d'indépendance dans les médias. Ce qui n'est pas loin des réalités de la RDC. D'où cette recommandation de Lucas Olo Fernandez, coordonnateur régional Afrique centrale de Transparency International.
La lutte contre l'impunité est une des choses que la RDC devrait s'adresser de manière très importante. Il y a aussi la partie de prévention de la corruption, mettre des mécanismes de transparence.
Comment et par où commencer pour vaincre la corruption? Le député national Jean-Pierre Passy Zapamba du réseau national des parlementaires contre la corruption pense que
La corruption la plus dangereuse, c'est celle des décideurs. Le jour dans ces pays où nous aurons un procès de quelqu'un qui est soupçonné de corruption, qu'on l'arrête, qu'on récupère les biens volés, vous allez vous rendre compte que la situation de la société va s'auto-régulariser.
Autrement dit, la lutte contre la corruption a donc des beaux jours devant elle en République démocratique du Congo.
Merci Jacques Molima pour tous ces détails. Ernest Ompararo, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, Ligue Coco en sigle. Vous êtes aussi contact national de l'ONG Transparency International en RDC. Comment vous analysez ce classement? Le Congo Kinshasa avec 22 points occupe la 147e sur 168 pays, une position qui n'a pas changé par rapport à l'année 2014.
Oui, effectivement, notre score n'a pas changé parce qu'en 2014, on avait 22 points et cette année nous avons encore 22 points. Et quels sont les impacts de ces classements-là? Les impacts les plus immédiats, c'est qu'il y a fuite d'investisseurs. Or, comme vous le savez, les investisseurs ne peuvent pas venir là où la corruption persiste comme en République démocratique du Congo. Et les investisseurs qui arrivent, ce sont des investisseurs véreux que nous faisons, que nous dénonçons chaque fois au niveau des litiers, ce sont des investisseurs qui viennent. Ils investissent aujourd'hui, dans 3 ans, 4 ans, ils vont récupérer leur investissement. Et comme conséquence, c'est le chômage des jeunes. Nous avons des jeunes gens qui terminent les études, qui terminent les universités. Ils sont dans des difficultés pour trouver des emplois. Donc, le classement ici devrait interpeller les chefs de l'État, devrait interpeller le Premier ministre pour dire, écoutez, est-ce que l'image du pays doit rester celle-là? Donc, nous, au niveau de la LICOCO et nos partenaires de Transparency International, nous pensons que nous devons sensibiliser les décideurs politiques pour effectivement que les décideurs s'attaquent au monde, aux causes de la corruption et effectivement mettre en place des mécanismes pour effectivement lutter contre cette corruption à travers la justice.
Mais comment, selon vous, M. Ernest Mpararo, vous pouvez expliquer le fait que la RDC ait gardé la même position?
Comme vous le savez, effectivement, il y a, première chose, il y a pas mal de dossiers de corruption, des cas de détournement, des cas de fraude qui n'ont jamais trouvé solution. Si vous retournez un peu plus loin, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun général qui est en prison, il n'y a aucun gouverneur en prison, il n'y a aucun ministre provincial en prison, il n'y a aucun ministre du gouvernement central en prison, il n'y a aucun député en prison, il n'y a aucun sénateur en prison. Donc, c'est un pays donc, où personne n'entre en prison, même s'il détournait de l'argent public. Cette impunité-là fait que, effectivement, au niveau international, on nous considère comme des pays qui sont le plus corruptibles au monde. Effectivement, nous sommes parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète. Est-ce que cette image-là doit nous réjouir? Je pense que non.
Et donc la RDC ne fournit pas d'efforts pour faire baisser la corruption?
Effectivement, non. Nous avons ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais sa mise en application pose problème. Le ministère de la Justice qui devrait mettre en application la Convention en proposant des lois aux parlementaires, en mettant en place des structures de lutte contre la corruption, en mettant en place une politique de prévention contre la corruption, le ministère de la Justice ne fout absolument rien.
Alors, comment vous analysez ou quel est tout le fait de la déclaration du Conseil spécial du chef de l'État pour la lutte contre la corruption qui affirme qu'on n'est pas disposé des moyens pour lutter contre ce fléau en RDC?
Effectivement, le Conseil spécial fournit des efforts, mais malheureusement, il est seul au niveau de la présidence. Sur 2000 personnes qui travaillent là-bas, il est la seule personne qui parle de corruption. Les autres personnes qui sont là, les DIRCAB, toutes les autres personnes, les conseillers principaux qui sont là, ils ne veulent même pas entendre les mots corruption. C'est comme ça qu'on ne lui donne pas de l'argent. Et si on ne lui donne pas de l'argent, comment est-ce qu'il peut travailler?
Merci Ernest Mpararo. Nous avons dans ce studio le conseiller principal du professeur Luzolo Bambi. Le professeur Luzolo Bambi qui est conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, de blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Monsieur Jean Bosco Condé, comment vous analysez-vous cette situation? La RDC qui garde sa place, son 147e place aux 168 pays.
Madame la journaliste, merci beaucoup pour la question. Nous avons eu à le dire ce matin, parce que nous étions l'invité du journal de Radio Capi. Nous avons commencé par remonter les choses jusqu'au mois de juin de l'année passée. Au mois de juin de l'année passée, le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance et lutte contre la corruption, le professeur Luzolo Bambi, avait déposé son premier rapport. Et nous, on appelle ça d'habitude les rapports du mois de juin. Dans ces rapports, il y avait 23 cas suffisamment documentés de détournement, des blanchiments des capitaux, des fraudes fiscales dans les domaines comme les télécommunications, les fuites. Parce que, madame, nous sommes dans un paradoxe extrêmement grave. Au moment où nous sommes en train de tourner autour de 8 milliards de dollars avec notre budget national, eh bien, le chiffre est noir. Donc, la fuite des capitaux, l'argent qui devait rentrer dans les caisses de l'État, ce que les gens appellent communément le coulage, eh bien, ce chiffre-là, il est de près de 15 milliards de dollars. Donc, si nous additionnons 8 plus 15, ça fait 23. Donc, en réalité, la RDC dispose d'un budget de 23 milliards de dollars. Mais alors, les efforts doivent être conjugués par tout le monde. Tout le monde. Toutes les autorités du pays, tout le monde. Alors, je crois que si vous avez suivi le 23 juin, à la sortie du parquet général de la République, lorsque le conseil spécial venait de déposer son premier rapport, dans lequel il a dénoncé et documenté 23 cas, il avait bien dit. à travers sa modeste personne, le chef de l'État, le président de la République venait de faire sa part. Parce que je crois que nous sommes un pays moderne. Nous ne sommes plus dans la dictature. Tous les Congolais, nous avons dénoncé la dictature. Et aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila, nous a conduits dans un état de droit. Et un état de droit suppose la séparation des pouvoirs. Un état de droit sous-entend la séparation des pouvoirs. C'est même ça, la démocratie. Donc, il y a la présidence. Il y a l'exécutif, il y a les judiciaires, il y a les parlements. Donc, le conseil spécial avait bien dit le 23 juin devant le parquet général. L'institution présidence de la République vient d'accomplir sa part.
Mais quelle est la suite de ce rapport que vous avez présenté, du premier rapport présenté le 23 juin?
Madame les journalistes, lorsque moi je dépose un rapport quelque part, le conseil spécial a déposé son rapport à l'office du procureur général de la République. Madame la journaliste, vous allez demander la suite à celui qui a déposé le rapport ou à celui qui l'a reçu. Vous êtes des journalistes, madame.
Et je crois que nous avons...
Mais madame, s'il vous plaît, je crois que la presse, nous sommes ici dans les studios, c'est bien, mais prenez votre micro, madame, s'il vous plaît. Allez poser la question là où le conseil spécial a déposé son rapport. Vous n'allez pas poser la question à celui qui a déposé le rapport. Vous devez poser la question à celui, à l'institution pouvoir judiciaire qui a reçu le rapport depuis le mois de juin. S'il vous plaît, madame de la presse, posez la question à ceux qui ont reçu les rapports et vous aurez la réponse. Mais, pas à celui qui a déposé.
Mais celui qui a déposé peut aussi, il se pose des questions pour savoir pourquoi il n'y a pas de suite. Il peut dénoncer cela, pourquoi il n'a pas fait.
Celui qui a déposé les rapports se met du même côté que vous de la presse, se met du même côté que le peuple congolais, qui est le dépositaire, le seul dépositaire de la justice. Lorsque vous lisez la...
Ça veut dire qu'il n'a pas les mains libres, ça veut dire qu'il ne travaille pas librement, le professeur Luzolo Bambi.
Madame, il suffit que le professeur Luzolo Bambi franchisse la ligne rouge, qu'il puisse se mêler des affaires de la justice. Vous serez, vous de la presse, le premier à lui pointer le doigt. Voilà, il y a interférence. Alors, nous voulons être un État moderne, s'il vous plaît, madame. J'insiste là-dessus. Parce que je crois qu'il y a des limites. Chaque pouvoir a ses limites. Les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs, l'exécutif, ainsi de suite. Alors, lorsque un pouvoir a fait son travail, il vous appartient à vous de la presse de dénoncer. Parce que vous avez, j'ai suivi dans les génériques, pour que les choses marchent, il faut que la presse ait suffisamment de liberté. Et je pense qu'au Congo, aujourd'hui, on peut parler de la liberté de la presse. Parce que là, nous suivons toutes les télévisions locales, les gens disent ce qu'ils pensent, les gens critiquent même les chefs de l'État à longueur des journées. Et ces gens-là, ils rentrent librement chez eux à la maison. Personne ne les inquiète.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement, Maître Koundé?
Madame, vous êtes de la Radio Okapi. Nous avons dit ça ce matin sur Radio Okapi. Nous constatons avec regret qu'au Congo, la corruption se porte bien.
Et le conseiller dit même qu'il ne dispose pas des moyens pour lutter contre ce fléau.
Bien, nous avons suivi quelques réactions dans la journée. Et lorsque le conseiller dit qu'il ne dispose pas des moyens, le conseiller spécial, il ne veut pas dire que cela ne doit pas être pris comme un aveu d'impuissance. Non, madame, cela n'est pas un aveu d'impuissance parce qu'au moins vous le savez. Notre ami Delicoco qui est à côté de moi, M. Ernest, l'a si bien dit. Le conseiller spécial fournit beaucoup d'efforts. Il fait son travail et il faut que les autres aussi puissent lui emboîter les pas, madame. Il ne peut pas faire seul ce travail dans un pays de près de 70 millions d'habitants. Il ne fera pas seul dans un pays où il y a plusieurs institutions. Et vous le savez, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, parce que, et comme vous avez dit au début, je préfère vous emboîter les pas, la meilleure des préventions, c'est quoi, madame, en matière de lutte contre la corruption? La meilleure des préventions, oui, les campagnes de sensibilisation, oui, c'est bien, mais la meilleure des préventions, c'est la sanction.
Merci.
Or, la sanction, est-ce qu'il appartient au conseil spécial de commencer à arrêter les gens?
Merci, Maître Koundé. Ernest Pararo, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut... On peut dire, lorsqu'on suit les analyses de Maître Koundé, est-ce qu'on peut dire que le conseil spécial du chef de l'État n'a pas les mains libres pour faire son travail, qu'il y a des pressions extérieures?
Effectivement, nous, au niveau de la société civile, lorsque le chef de l'État l'a nommé comme conseil spécial, le premier appui devrait venir du chef de l'État lui-même. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsque les conseillers déposent un dossier auprès de la justice, c'est le chef de l'État qui devrait appeler le procureur général de la République, comme ça se passe au Nigeria aujourd'hui. Vous êtes en train de suivre au Nigeria, on est en train, sous l'impulsion du chef de l'État nigérien actuel, on est en train d'arrêter des anciens ministres, on est en train d'arrêter des banquiers, on est en train d'arrêter des hommes politiques. Donc, on est en train d'arrêter tout le monde qui est impliqué dans des actes de corruption. Tandis qu'ici, en RDC, le conseil spécial, il fournit ses efforts, il fait son travail pour montrer que celui qui l'a nommé, que le travail est fait. Mais qu'est-ce que nous constatons? Comme notre collègue l'a dit, ce sont ces magistrats-là qui sont au niveau du parquet général de la République, qui ne foutent absolument rien. Si moi j'étais le chef de l'État, je devrais tous les mettre hors, donc, en pension. Parce que ce sont ces gens-là qui doivent arrêter les gens.
Et donc, ce sont les magistrats qui prennent la procédure.
Effectivement. Ce n'est pas seulement les 23 cas que notre collègue venait de dire. Vous vous souvenez, le cas de fibre optique. Vous vous souvenez, le cas de FPI. Vous vous souvenez, nous avions dénoncé des cas de surfacturation de travaux du contrat chinois. Vous vous souvenez, il y a eu même une commission qui est partie à Lubumbashi pour la fraude minière. Il y a pas mal de cas et de cas et de cas et de cas dont la justice, dont le procureur général, il est actif pour arrêter les journalistes, mais il n'est pas actif pour arrêter ceux qui détournent les lieux publics. C'est ça le grand problème que nous avons. Il n'y a aucun général qui est en prison, aucun ministre provincial en prison. Donc, tout le monde va que vous pouvez bouffer ton argent. Et vous allez vous reposer à Hawaï et personne ne vous interpellera jamais.
Merci Ernest Tararo, professeur Emmanuel Banesuizé, professeur à l'Université de Lubumbashi et directeur général de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique. Quelle est votre lecture, professeur, de cette situation?
Alors merci madame, et merci à tous les invités des Radio Capi. Ce que je peux dire à première vue en lisant ces rapports-là, ce qu'on peut noter, et je voulais dire par rapport à ce qui a été énoncé tout à l'heure, que notre indice n'a pas changé depuis 2000. Alors, puisque j'ai les rapports sous mes yeux, sur mon ordinateur, depuis 2013, en fait, notre score n'a pas changé. En 2013, notre score était de 22. En 2014, il est de 22. Et en 2015, il est de 22. Or, précisément, on note en même temps que depuis au moins 2 ans, notre pays a affiché une volonté claire de vouloir lutter contre la corruption. Et cela s'est traduit par la nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État, justement chargé des luttes contre la corruption, contre le blanchiment d'argent et contre les financements du terrorisme. Mais curieusement, rien n'a changé depuis, les lignes n'ont pas bougé quand on regarde ces rapports-là depuis 2013. Notre score est resté de 22. Nous sommes passés de 21 en 2012 à 22 en 2013, 22 en 2014 et 22 en 2000. Alors, deuxième élément qu'on peut noter, c'est que finalement, les pays que nous devançons sont les pays qui sont en lutte, enfin qui connaissent des fortes crises de gouvernance. C'est notamment des pays comme le Burundi, le Cambodge, l'Érythrée, la Syrie, le Yémen, Haïti, Guinée-Bissau, Irak. Et puis on a les Soudans du Sud, on a les Soudans, on a l'Afghanistan, la Corée du Nord et enfin la Somalie. Donc nous ne nous plaçons que devant des pays qui sont en proie à des problèmes de gouvernance, de mal-gouvernance. Ce qui signifie qu'il s'avère clairement en lisant ces rapports-là que la corruption dans notre pays s'explique d'abord par une mal-gouvernance. Et cette mal-gouvernance affecte, bien entendu, l'administration publique, les services publics. Voilà les premiers rapports que je peux, enfin, la première lecture que je peux faire de ces rapports-là. Mais je peux aussi noter finalement, et comme l'ont dit tout à l'heure les intervenants, que ce soit les conseillers du conseiller spécial du chef de l'État ou le maître Ernest, qu'il y a là aussi un problème d'impunité. Ce qui signifie, s'il est vrai qu'on a déposé des dossiers documentés auprès de la justice et que les concernés n'ont pas été en fait interpellés devant la justice, ne serait-ce que pour être auditionnés, pour entamer des actions d'audition. Cela signifie donc qu'il y a une consécration de l'impunité, et notamment par l'organe judiciaire. Or, c'est l'instrument d'appui du gouvernement justement pour asseoir la bonne gouvernance dans notre pays. Voilà ce que je peux dire d'abord de ce rapport-là en les lisant à chaud.
Alors, professeur, est-ce qu'on peut parler d'une volonté manifeste de l'État à vouloir voir les choses évoluer positivement?
Bon, moi, je crois qu'il est dans l'intérêt de notre gouvernement de faire en sorte que les choses avancent. Parce que d'abord, vous le savez, en ce qui concerne les rapports entre les États sur le plan international. Ce qui compte pour un État, ce n'est pas ce qu'il déclare de lui-même, mais ce que d'autres États disent de cet État-là. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce que nous déclarons de nous-mêmes, ce n'est pas ce que nous disons que nous sommes, c'est ce que les autres disent que nous sommes. Or, il est dans l'intérêt de notre pays, justement, de faire en sorte qu'on puisse améliorer l'image que nous donnons à l'extérieur. Ne serait-ce que d'abord pour faire respecter notre pays, pour faire respecter les Congolais, ensuite pour attirer des investisseurs sérieux dans notre pays, parce que notre pays a besoin de drainer des capitaux pour pouvoir effectivement amorcer le développement du pays et pouvoir prétendre à l'émergence. Parce que nous ne pouvons pas en même temps en train de proclamer que nous voulons être un pays émergent à l'horizon 2025 ou 2030, sans mettre en place une bonne gouvernance, une transparence dans la gestion des institutions, dans l'attribution des contrats publics, dans l'attribution des marchés, sans mettre fin, par exemple, à des pratiques de rétrocommission ou des commissions en rapport avec l'attribution des grands contrats publics. Nous ne pouvons pas prétendre à cela, à vouloir que nous soyons un pays émergent, c'est faire en sorte que nous puissions asseoir une culture de démocratie, que nous puissions en fait bâtir une justice réellement indépendante qui puisse accompagner l'État dans la gouvernance transparente pour que les pays puissent prétendre à cela. Mais je crois que rapidement, et évidemment tout à l'heure, je crois Maître Condé, je l'ai suivi, a dit qu'on constate que la corruption se porte très bien. Je crois qu'on ne doit pas se satisfaire d'énoncer de tels propos. On doit faire un effort pour lutter chaque jour contre la corruption.
Merci.
Dans l'intérêt de notre pays.
Merci, professeur Ernest Mpararo. On va prendre pour vous une réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Rome de Bukavu au sud Kivu. Très déplorable est aussi cette situation de corruption en RDC. Je ne pense pas que l'on soit présentement en mesure de l'éradiquer, même si l'on peut allouer des moyens conséquents à cet effet, tant que ce phénomène ne cessera de gagner encore les plus hautes instances du pays. Autant dire que ceux qui prétendent y mettre fin sont curieusement ceux-là même qui les favorisent d'une manière ou d'une autre.
Réaction, Ernest Mpararo.
Oui, effectivement, comme vous le savez, je vous ai donné l'exemple du Nigeria. Aujourd'hui, il y a un président qui a une volonté politique d'éradiquer la corruption dans son pays ou de réduire la corruption dans son pays. Et je pense qu'il commence d'abord par arrêter les hautes personnalités de ce pays-là. Et je pense qu'ici aussi, en République démocratique du Congo, si le chef de l'État veut vraiment que les choses changent, il peut commencer par arrêter des généraux, des ministres, tous ces mondes-là qui sont dans plusieurs rapports qui ont été élaborés, et vous verrez que les autres, nous l'avions vu sous Kabila Le Père. Lorsque Kabila Le Père est arrivé ici, il a commencé à mettre en prison certains ministres, et je vous assure que le roulage commençait déjà à verser l'argent public dans les caisses de l'État. Et c'est ce qui a fait que l'ancien chef de l'État avait fait sa réforme monétaire sans aide internationale. Donc nous sommes sûrs et certains, nous au niveau de la LICOCO, que si le chef de l'État prend l'exemple ou fait ce que le Nigeria est en train de faire, ou fait ce que la Tanzanie est en train de faire, je suis sûr et certain que dans peu de temps, nous pouvons quitter le score de 22 pour aller dans le score de 50 comme le Rwanda.
Alors, le chef de l'État, excusez-moi, le chef de l'État a créé un poste de conseiller spécial pour lutter contre la corruption, mais on ne met pas les moyens. Est-ce qu'on peut dire que ce poste a été créé pour la consommation extérieure?
Oui, au niveau de la LICOCO, effectivement, nous pouvons croire cela, que le poste a été créé pour calmer un peu la Banque mondiale, l'FMI. Mais en réalité, c'est ce que nous disons, le chef de l'État doit donner du soutien au conseil spécial et il doit demander au gouvernement d'affecter, parce que moi-même j'étais à leur bureau, vous passez au ministère de l'ancien ministre, là où se trouvait le ministère de la Santé, vous verrez que les bâtiments ne sont même pas peints. Il n'y a même pas de couleur dans ces bâtiments. Les gens viennent quand ils veulent. J'ai des amis qui travaillent là-bas, ils disent, écoutez, on nous paye mal. Alors, lorsque quelqu'un qui lutte contre la corruption, il est payé 500 à 1000 dollars, et il a des dossiers de 16 millions, 20 millions, il va faire quoi? Donc, nous pensons que le chef de l'État doit donner de l'appui, doit instruire le gouvernement pour effectivement qu'il mette des moyens auprès du conseil spécial qui a manifesté sa volonté de travailler en collaboration avec les organisations civiles, en collaboration avec la presse, parce qu'il a mis en place une ligne verte où les gens pouvaient appeler pour effectivement dénoncer les actes de corruption. Mais effectivement, il est seul à la présidence. Or, il y a des milliers de personnes qui ne veulent pas que la corruption soit combattue.
Merci Ernest Mpaharo. Maître Kondé, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Fikiri Tchomba, depuis Goma, dans la province du Nord Kivu. Petit à petit, je trouve que la corruption est en train d'être institutionnalisée face à l'impuissance des autorités qui sont appelées à combattre ce fléau. Juste après sa prise de fonction, le conseiller spécial avait affirmé que la RDC perd chaque année 17 milliards de dollars, mais sans pour autant aller plus loin avec ce dossier. A-t-il été bloqué quelque part? Si oui, par qui? N'est-ce pas là un aveu d'échec de sa part? Pourtant, ça fait combattre cet antivaleur. À mon avis, il y a une grande contradiction dans cette déclaration du conseiller spécial du président. C'est ainsi que je me pose la question de savoir pourquoi conditionner les bons résultats de son travail par les moyens. Est-ce pour remplir loyalement les tâches qui lui sont confiées? Il faut beaucoup de moyens. Si oui, l'État manque-t-il les moyens? Je pense qu'il est bloqué quelque part, mais il ne le dit pas clairement. C'est pourquoi il cherche un bouc émissaire pour justifier son impuissance.
Une réaction, Maître Kondé.
Merci beaucoup, madame, et je salue cet auditeur qui intervient au téléphone. Madame, je crois que on ne peut pas parler d'aveu d'impuissance et on ne peut pas voir les choses de cette manière-là. Et comme je l'ai dit ce matin sur Radio Capi, et je ne cesse de le dire, le conseil spécial a tiré la sonnette d'alarme aussitôt arrivé, madame. Aussitôt arrivé, il a tiré la sonnette d'alarme. Il dit, attention, le chiffre noir, il est de 15 milliards. L'argent qui échappe au trésor public. Mais madame, ou bien nous voulons qu'on revienne à la dictature et que le peuple ne puisse pas s'en plaindre. Ou alors, nous voulons être un État classique qui est organisé, où il y a la séparation des pouvoirs comme dans toute démocratie et où chaque institution est appelée à jouer son rôle. Je vais paraphraser Jean-Paul Sartre, madame, qui disait toujours que l'enfer c'est les autres. Nous avons parlé suffisamment, tout le monde revient toujours vers l'institution justice. Parce que dans un état de droit, ce n'est pas le travail du président de la République d'arrêter les gens. S'il vous plaît, madame, soyons un état moderne. Arrêtons de vouloir être une république bananière. Parce que nous, les peuples, nous serons les premiers à dénoncer encore cela. Le chef de l'État, son travail, ce n'est pas d'arrêter les gens. Il y a une justice dans un pays.
Non, là, c'est bien, reste un parent. Le président peut instruire le procureur général. Non, non. Peut donner un coup de fil
madame,
au procureur
vous
pour
cessez,
lui dire qu'il y a des dossiers
vous,
qui traînent.
Surtout vous de la presse. Vous ne cessez de réclamer. Tout à l'heure, j'ai suivi votre conducteur. Vous voulez l'indépendance de la justice. Mais comment voulez-vous qu'une justice que vous voulez indépendante qui puisse recevoir des instructions d'une autre institution? Donc, madame, là, je crois que nous sommes en train de vouloir compliquer la situation nous-mêmes. Je disais ici, Jean-Paul Sartre dit que l'enfer, c'est souvent les autres. Mais madame, là, c'est le peuple qui se plaint. Parce que tout ce qui se fait dans un pays, l'objectif, c'est le bien-être du peuple. Tout ce que nous faisons dans toutes les institutions, même nos amis de la société civile, même vous de la presse, l'objectif, c'est le bien-être du peuple. Mais madame, le peuple a une représentation nationale. Mais vous n'en parlez pas du tout. Le peuple a une représentation nationale. Est-ce qu'il joue son rôle, cette représentation nationale? Madame, est-ce que vous pouvez imaginer le budget de l'Assemblée nationale et le budget du Sénat? Mais faites un peu le point sur le travail de ces institutions-là. Est-ce qu'ils font leur travail? Combien d'interpellations? Je voudrais associer dans cette réflexion notre ami de la société civile. Combien d'interpellations des ministres y a-t-il eu lieu depuis que l'actuel gouvernement est là? Combien de motions de défiance? Parce que l'Assemblée nationale, c'est elle qui investit le gouvernement. Et c'est la représentation nationale, c'est le peuple au sein de cet hémicycle.
Alors cet auditeur estime que le conseiller est bloqué quelque part, mais il ne le dit pas clairement, c'est pourquoi il cherche un bouc émissaire.
Non, le conseiller spécial ne cherche pas de bouc émissaire. Il l'a dit à travers ma modeste personne, depuis ce matin. Madame, prenez le budget 2016, alors que la présidence, le service du conseiller spécial, et les conseillers spécial, c'est un des services spécialisés de la présidence. Il y a une dizaine de services à la présidence. Le coordonnateur des services de la présidence, le directeur des cabinets, a fait participer les conseillers spéciaux à travers son conseil financier dans l'élaboration du budget. Mais une fois envoyé là-bas à l'Assemblée nationale, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, consultez les budgets, vous êtes de la presse, madame, faites d'investigation. Vous allez voir que dans le budget 2016, tous les services de la présidence sont servis, sauf les services du conseil spécial. Est-ce que le gouvernement...
Pourquoi? C'est la question qu'on se
madame,
pose. Pourquoi?
Madame, je
pourquoi
pointe...
seulement ce service-là?
Madame, je pointe du doigt l'institution gouvernement, Je pointe du doigt l'institution Assemblée nationale, l'autorité budgétaire. Je réfléchis à haute voix. Est-ce que ces deux institutions veulent de la lutte contre la corruption? Vous posez bien la question. Pourquoi on a laissé tous les services de la présidence, le journal officiel, la maison civile du chef de l'État, les services de lutte contre les violences sexuelles? Toutes les institutions de la présidence de la République sont alignées dans les budgets, sauf vous arrivez au service du conseil spécial bonne gouvernance, on a annoncé les services et on a mis des zéros à la fin, donc aucun budget. Est-ce que les gouvernements et l'Assemblée nationale, est-ce que ces institutions que moi j'ai pointé du doigt de manière courageuse, le gouvernement et l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils veulent de la lutte contre la corruption? Où ils veulent la stratégie
mais
de l'étouffement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que ce poste a été créé pour la consommation extérieure?
Non, madame. Madame.
Contre la corruption alors que c'est le
madame, pas ça. Je vous ramène à ce que j'avais dit quand j'ai pris la parole pour la première fois. Le conseil spécial avait déclaré devant l'office du procureur général de la République, en le nommant d'abord, le conseil spécial, le chef de l'État, a fait sa part dans cette affaire de lutte contre la corruption. Il a exprimé la volonté politique en créant un service anticorruption et surtout en désignant un animateur qui a fait l'unanimité même au niveau de la société civile. Parce que tout le monde connaît le professeur Louzo Lokan, il était ministre de la Justice, tout le monde connaît son engagement dans la lutte contre la corruption. Donc le chef d'État a fait sa part. Mais il revient aux autres institutions de faire leur part, c'est ça la démocratie. Le pays n'a pas qu'une seule institution, la présidence, non.
Merci,
nous avons voulu la démocratie, madame.
Merci, maître Condé. Vous l'avez déjà dit, merci, on vous a compris, maître Condé. Professeur Banosizé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Rich Kabine Kazadi de Kinshasa. Le conseiller spécial Ouzoulou Bambi a totalement raison dans cet aveu d'impuissance, ce qui n'est pas, à mon avis, suffisant. Il devait en toute probité présenter sa lettre de démission au président Kabila. Ce qui est vrai est que la corruption est un fléau qui a gangréné notre pays, et ce, à partir du sommet. Ce qui fait que, selon toute vraisemblance, ceux qui l'ont nommé à ce poste peuvent se retrouver au-dedans de cette machine infernale de la corruption. À mon avis, vu que le Parlement, dominé par la majorité présidentielle, n'arrive pas à exercer son rôle de contrôle sur le gouvernement, il serait judicieux que nous ayons une commission indépendante de lutte contre la corruption et une justice efficace pouvant poursuivre les corrompus sans qu'il y ait immixtion du politique dans ces deux institutions.
Professeur, réaction.
Ce que je vais dire tout à l'heure, madame, si vous le permettez, je vais commencer par réagir au propos du conseiller, de Louzolo.
Allez-y.
Donc, ce que finalement on note dans tout ce qu'il a dit, ces rapports soulèvent une question, et ce qu'il venait de dire soulève finalement une question sur notre gouvernementalité, la façon dont nous pratiquons l'État chez nous. Parce que s'il doit dire, écoutez, c'est le gouvernement, c'est le Parlement, c'est... Ça soulève finalement la question même des types de gouvernementalité, la façon dont nous pratiquons l'État chez nous, et finalement la moralité des systèmes de répartition des pouvoirs et des richesses dans notre pays. Et surtout, en tout cas, la moralité des systèmes de répartition des trois pouvoirs traditionnels. Bon, maintenant, il peut s'en défendre comme il veut, mais il me semble que le professeur Louzolo Bambi est réellement en difficulté, il ne peut pas faire son travail. Dans ce contexte-là. Bon, ensuite, je ne pense pas qu'il ait été vraiment nécessaire de nommer un conseiller spécial du chef de l'État en matière de corruption. Lorsqu'on regarde, par exemple, et là je vais m'appuyer sur les données que j'ai devant moi, lorsqu'on regarde les pays africains qui sont mieux classés, le premier pays qui est mieux classé, c'est le Botswana, avec 63%, disons, une note de 63, suivi du Rwanda, suivi de la Namibie, suivi du Ghana, du Sénégal, et puis on a l'Afrique du Sud. Je vais me limiter à ces pays-là. Lorsqu'on regarde ces pays-là, en fait, dans tous ces pays, il n'y a pas un conseiller spécial du chef de l'État chargé exclusivement de la corruption. Mais pourtant, ces pays se classent mieux. Donc, en tout cas, que ce soit au Botswana, que ce soit au Rwanda, en Namibie, au Ghana, peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, si je me réfère à mes informations, dans ces pays-là, au Botswana, en Namibie, au Ghana, au Sénégal et en Afrique du Sud, il n'y a pas un conseiller spécial du chef de l'État chargé de corruption. Mais pourtant, ces pays se classent mieux. C'est parce que d'abord, ils ont construit une justice réellement indépendante, ou plus ou moins indépendante, qui est capable d'inquiéter les récalcitrants, d'appuyer l'institution exécutive. Et finalement, il y a une gouvernance démocratique qui s'est mise dans ce pays et qui s'est enracinée. Depuis, on peut le noter, le Botswana est parmi les pays où, en tout cas, la gouvernance démocratique s'est enracinée, la Namibie aussi, le Ghana, le Sénégal et l'Afrique du Sud depuis, en tout cas, la libération de Nelson Mandela. Donc, on peut noter qu'il y a un lien de cause à effet entre la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Parce que qui dit bonne gouvernance dit réellement que les institutions fonctionnent de façon indépendante et complémentaire, en fait, exécutent les tâches pour lesquelles elles ont été créées. Mais ce qu'on peut noter dans ce que vient de dire le conseiller, c'est que finalement, chez nous, les institutions ne fonctionnent pas de cette manière-là. Et qu'il y a pratiquement une sorte d'affaiblissement programmé des institutions qui ne peuvent pas faire leurs tâches. Mais si alors ils sont affaiblis et qu'ils ne peuvent pas faire leurs tâches, alors il faudrait effectivement tirer toutes les conséquences. Et dans l'état d'espèce, je crois que le conseiller spécial n'a plus de raison d'être là.
Alors,
simplement marquer cette volonté-là en montrant que les institutions l'empêchent de faire le travail qu'il doit faire et de rendre sa démission, me semble-t-il.
Voilà, c'est ça que propose cet auditeur qui nous a appelé depuis Kinshasa. Et dans les solutions, il propose la création d'une commission indépendante.
Je crois, madame, que dans tous les cas, cet auditeur-là, et c'est pour cela que je termine par là, cet auditeur a tout à fait raison. Dans tous les cas, les pouvoirs ne se plaignent pas, les pouvoirs s'exécutent. Or, nous sommes dans un cas de figure où un conseiller spécial du chef de l'État est en train de se plaindre. Et cette plainte est répercutée par son conseiller. Donc, les pouvoirs ne se plaignent pas, les pouvoirs s'exécutent. Les gens, en fait, sont nommés à des postes de responsabilité pour accompagner les gouvernements ou pour construire l'État et pour l'amener vers son développement. Ils ne sont pas là pour se plaindre et comme pour dire, écoutez, je n'y suis pour rien, ce sont les autres. Dans tous les cas, dès lors qu'ils ont accepté ces charges-là, ils doivent l'exécuter.
Alors,
et ne pas se plaindre. Dans le cas contraire, ils doivent tirer la conséquence de tout cela. Parce que dans tous les cas, demain, il se plaindra. Après demain, avant lui et après lui, c'est resté la même chose. Nous avions l'indice de 22. Nous sommes à 22, donc il n'a rien changé. Les lignes n'ont pas bougé.
Professeur Badesfuise, cet auditeur de Kinshasa propose comme solution la création d'une commission indépendante de lutte contre la corruption et une justice efficace pouvant poursuivre les corrompus sans qu'il y ait immixtion du politique dans ces deux institutions.
Bon, enfin, je note que les pays qui se classent en première ligne, si on prend les rapports de 2015, Le premier pays, évidemment, on peut dire que c'est un pays européen, le Danemark, suivi d'autres pays comme la Finlande, le Suède. En fait, ces pays-là n'ont pas des conditions spécialisées pour lutter contre la corruption. Ils s'appuient sur des institutions régaliennes. Je pense que chez nous, on ne doit pas multiplier des institutions qui vont circuiter, finalement, les institutions régaliennes, qui ont reçu mandat du peuple de pouvoir agir à son nom. Il y a chez nous des institutions. Et ces institutions sont les législatifs, l'exécutif et les judiciaires.
Merci,
qui
professeur.
Peuvent être appuyés par l'administration. On n'a pas besoin de multiplier d'autres institutions et qui seront des institutions budgétivores.
Merci, professeur Ernesto Mpararo. Nous sommes déjà dans les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC fournisse des efforts dans sa lutte contre la corruption?
Nous ne cessons pas de le dire chaque fois que nous avons l'opportunité de passer sur Radio Capi. La première des choses, c'est que le gouvernement doit lutter contre l'impunité. Le chef de l'État doit donner des ordres à tous les magistrats pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils sanctionnent ceux qui sont passibles, ceux qui s'adonnent aux actes de corruption, ceux qui s'adonnent aux actes de fraude, ceux qui s'adonnent aux actes de détournement des deniers publics ou ceux qui s'adonnent aux actes d'évasion fiscale. On doit les arrêter. Nous avions suivi le conseil spécial, il a fait arrêter un blanc de Mino-Congo et vous savez qui l'a fait libérer? C'est sur ordre du procureur général de la République qu'il a été libéré sans avoir payé aucun franc à l'État. Or, le blanc là de Mino-Congo doit à l'État plus de 30 millions de dollars des impôts. Et ce sont ces impôts-là qui doivent construire des routes, qui doivent construire des hôpitaux, qui doivent payer ou construire des camps militaires pour notre armée. Donc, sur ordre du procureur général de la République, le blanc a été libéré. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas payé aucun franc. Donc,
La première des choses, c'est que le gouvernement doit lutter contre l'impunité elle-même. La deuxième chose, nous devons avoir des programmes de sensibilisation. Et ce programme doit toucher toute la population pour dire, écoutez, mon cher, dès que vous voyez quelqu'un, il passe, il était chômeur, aujourd'hui il a étudié, il commence à travailler, demain il commence à construire, après 2 ans, 3 ans, à construire une maison, la population doit aller dénoncer quelque part. Pour dire, comment est-ce que dans 2 ans tu as travaillé, tu as pris un crédit à la banque, mais si tu n'as pas pris un crédit à la banque, comment tu commences à construire un immeuble de 3 étages, après 3 ans de travail, donc il y a un problème.
Donc, mais il peut avoir ses entrées. Hein.
Effectivement, on doit suivre tout ça. Tu sais, en Europe, lorsqu'on te voit circuler avec une Range Rover, déjà la police commence à enquêter. Tu as trouvé l'argent ou peut-être tu as vendu la drogue. Si tu as joué au PMI, tu as gagné, ok. Mais si tu n'as pas joué au PMI, tu n'es même pas star. Tu n'es, toi, ta famille n'est pas riche. Comment est-ce que tu peux avoir une Jeep Range Rover qui coûte plus de 200 000 euros? Donc, la police doit commencer à enquêter. Donc, on doit mettre en place des mécanismes, des programmes de sensibilisation pour qu'on puisse dénoncer tous les détourneurs, tous les corrompus et tous les corrupteurs. Les indicateurs sont visibles.
Alors, ce poste de conseiller spécial du chef de l'État chargé de lutte contre la corruption, on doit tant le conserver ou carrément le supprimer puisque le conseiller n'arrive pas à bien faire son travail?
Effectivement, ça, c'était la volonté du chef de l'État. Il s'était engagé devant les partenaires extérieurs pour dire, écoutez, les partenaires lui disaient chaque fois que le pays, ça ne marche pas parce qu'il y a la corruption. C'est comme ça que cette volonté s'est traduite à la nomination du conseil spécial. Aujourd'hui, les gens décrient que le rôle du conseil spécial n'est pas bien rempli. Bon, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai, mais c'est la justice qui devrait le soutenir. Or, la justice ne vient pas. Comme nous venons de le dire, c'est la justice qui devait soutenir le travail du conseiller spécial. Merci. Or, la justice ne suit pas.
Merci, M. Mpararo. Ça sera aussi votre conclusion, Maître Jean-Bosco Condé. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter efficacement contre la corruption en RDC?
Bien, madame, comme vient de le dire notre ami de la société civile de l'ICOCO, je dirais ceci, madame. En matière de lutte contre la corruption, le plus important, ce n'est pas, pour ce qui concerne les conseils spéciaux et ses services, le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il a présentées devant la justice ou quoi. Le plus important, je crois, vous serez d'accord avec moi, c'est de commencer. Parce que lorsque ça, on a toujours dit, il faut que ça commence quelque part. Et je crois qu'au Congo, nous n'avons pas peur de le dire, ça a commencé. Voilà mon voisin d'à côté, de la société civile, qui vient de le dire, les conseils spéciaux a mis la main, avec ses services, il a mis la main sur un sujet libanais qui a toujours crié haut et fort que lui, dans ce pays, personne ne peut toucher à lui, le patron du Mino-Congo. Le conseil spécial a mis la main sur cette personne et comme le disent les lois du pays, un service comme celui du conseil spécial ne peut pas garder quelqu'un qui l'a arrêté pendant plus de 48 heures. Ça, c'est la loi. Et le conseil spécial, en bon professionnel de droit, professeur de droit, dans les délais prévus par la loi, il a livré cette personne-là entre les mains de la justice.
Alors,
et la suite, vous devez poser la question à la justice.
Voilà. En guise de conclusion, Maître Condé, juste un mot.
Donc, je disais tout à l'heure, en guise de conclusion, le conseil spécial, malgré les difficultés des parcours, lui, il a commencé. Merci. Et il faut que tous les Congolais puissent s'approprier de cette lutte-là pour que les choses puissent marcher.
Merci, Maître Condé, professeur Emmanuel Balé-Suizé. Vous allez aussi conclure.
Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant de créer des comités ad hoc qui s'occuperaient de lutter contre la corruption. Il s'agit de construire une véritable démocratie parce que nous n'habitons pas encore la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas la forme du gouvernement qui permet à une classe de régner au nom du peuple et de se partager les avantages. La démocratie, c'est une forme de gouvernement qui arrache en fait à un groupe de personnes le monopole de la vie publique et la possibilité de confondre les trois pouvoirs traditionnels dans les mains de quelques personnes. Si on arrive justement à faire cette séparation et à asseoir une gouvernementalité démocratique, les institutions qui sont en charge de contrôler les sanctionnés vont les faire.
Merci. Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Alain Roum, Berry Panclet, Loutaka, sous la supervision de Julien Nyamouini. La prise de son était assurée par Sylvain Matundou. Au micro, Kelly Goutet, vous allez m'excuser pour ma voix. J'ai un rhume qui me dérange. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.